Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous parler de forêt. Moi, j'ai l'habitude de travailler seul en forêt. J'ai pas l'habitude de parler en public devant tant de personnes. J'espère que je vais être clair. Si je suis pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais comme ça. Bon. Pour vous parler de forêt, je vais d'abord vous présenter ce que c'est qu'un arbre, comment fonctionne un arbre, et ensuite de quoi l'arbre a besoin pour se développer. Ensuite, je vous montrerai que la forêt, c'est pas simplement des arbres, il y a autre chose. Ensuite, j'essaierai de vous montrer que la forêt, ça évolue dans le temps et dans l'espace. Et après, j'aborderai, mais ce sera plutôt le thème du débat à suivre, les changements climatiques et comment vont réagir les forêts face aux changements climatiques. Alors, une forêt, qu'est-ce que c'est ? C'est une terre qui est occupée par au moins 10% de sa surface par des arbres, les arbres ayant au minimum une hauteur de 5 mètres. Ça, c'est une définition officielle de la FAO. Et donc, cette forêt est composée d'arbres. Ces arbres, ce sont des êtres vivants qui appartiennent au monde végétal. Alors, comment fonctionne un arbre ? Un arbre, il a besoin d'eau, d'éléments minéraux. L'eau permet aux éléments minéraux de rentrer dans l'arbre. Cette eau et ces éléments minéraux montent et vont subir une transformation grâce à la lumière et en s'accouplant, entre guillemets, au gaz carbonique. Donc, pour vivre, un arbre a besoin d'eau, d'éléments minéraux, de lumière et de gaz carbonique. Un élément primordial de tout végétaux et donc des arbres, c'est la feuille. Donc là, je vous montre une feuille avec, à droite, une coupe transversale au sein d'une feuille. Cette feuille, la coupe transversale montre qu'on a deux parties. Une partie avec des cellules très alignées, qui permettent de réaliser la photosynthèse. Donc la photosynthèse, ça permet de créer de l'énergie chimique à partir de la lumière en couplant de l'eau et du gaz carbonique. Enfin, c'est un peu schématique, mais je simplifie. La partie inférieure de la feuille, on s'aperçoit qu'il y a des petits trous là et des grandes lacunes. Ça permet les échanges gazeux. Ça permet à la feuille de transpirer et de respirer. Et donc, cette feuille, c'est la base de toute la photosynthèse, et cette photosynthèse permet de faire des sucres. Ces sucres sont spécifiques aux végétaux, et sans ces sucres, il n'y aurait pas de vie animale sur Terre. Donc sans végétal, il n'y a pas d'animal. Hop là. Alors, un arbre, c'est donc un végétal, par contre, c'est un végétal particulier qui est haut. Donc, pour que cet arbre puisse tenir, il a besoin d'un tronc, de racines et de branches. Donc je vais passer un peu en revue ces différents éléments. Alors d'abord le tronc, même chose, j'ai mis à gauche une coupe transversale dans un tronc d'arbre avec une partie rouge qui est colorée par un colorant qui permet à la sève de descendre, c'est-à-dire que les sucres qui sont synthétisés dans la feuille descendent vers les différents organes. À droite, le bois permet à l'eau et aux éléments minéraux de monter dans la feuille. Donc ce flux de sève montante et descendante permet au végétal de fonctionner. Chez les arbres, on a une partie du bois qui n'est plus vivante. C'est la partie qu'on appelle le duramen, qui permet à l'arbre d'avoir une rigidité et donc au tronc de rester droit, même s'il est très haut. Et c'est cette partie de bois mort qui est exploité pour faire des planches, par exemple. Ensuite, les racines. Donc là, même chose, hein, coupe microscopique, enfin une vue à la loupe d'une racine avec des poils. Ces poils, vus au microscope, on s'aperçoit qu'ils sont percés et qui permettent à l'eau de rentrer à l'intérieur du végétal, donc par les racines. Ce système racinaire, donc ces racines, elles sont généralement complétées, notamment en forêt, par une association avec des champignons, ce qu'on appelle des mycorhizes, Et ces champignons permettent d'augmenter la surface de prospection des racines, donc ça alimente l'alimentation des végétaux en eau. Donc avec, grâce à ces champignons, l'arbre a une meilleure alimentation en eau. Et grâce à l'activité enzymatique de ces champignons, certains éléments minéraux sont mieux assimilés par les arbres, notamment l'azote et le phosphore. Donc une meilleure croissance des arbres quand ils sont associés à ces champignons. Autre rôle des racines, c'est le rôle classique, c'est l'ancrage. Donc avec deux types de systèmes racinaires, système pivotant, comme par exemple le sapin, système racinaire traçant, donc des racines très horizontales, comme par exemple l'épicéa, en sachant que ce rôle d'accroche au sol n'est pas toujours efficace. Là, c'est un propriétaire qui a planté des épicéas sur une tourbière. L'eau a empêché les racines de se développer en profondeur, d'autant plus que ces épicéas ont des systèmes racinaires traçants, donc qui restent en surface. Et là, un petit coup de vent et toute la ligne de plantation est partie. Donc, il faut tenir compte des spécificités des arbres quand on fait une plantation. Ensuite, donc, l'arbre il fonctionne, il produit de la matière, et comme tout être vivant, l'arbre a besoin de se reproduire. Donc, deux types de reproduction, une reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'on a brassage génétique, ce qui permet au végétal et donc à l'arbre de s'adapter au changement des conditions environnementales. Donc là, à gauche, vous avez des cônes femelles d'épicéas. Les cônes mâles, on ne les voit pas là. Et là, vous avez des fleurs mâles de noisetier et des fleurs femelles de noisetier. La noisette, la future noisette, elle est là. Donc, reproduction sexuée avec brassage génétique, donc évolution possible du végétal qui s'adapte aux conditions de milieu. Et puis, on a ce qu'on appelle de la multiplication végétative, c'est-à-dire que c'est du bouturage, du clonage. C'est un moyen de multiplication rapide. Par contre, c'est statique. Comme il n'y a pas de brassage génétique, l'arbre ne s'adapte pas au changement du milieu. Donc, grâce à la reproduction, la graine va germer. Donc là, c'est une graine de hêtre qui vient de germer, avec les deux cotylédons, deux feuilles qui contiennent des réserves. Cette graine se développe et au bout d'une centaine ou 150 ans, ça donne un arbre. Donc cet arbre, pour se développer, il a eu besoin de lumière, de chaleur et d'humidité atmosphérique. Ces trois facteurs, donc lumière, chaleur et humidité atmosphérique, c'est fourni par le climat. Et il a besoin également d'eau liquide et d'éléments minéraux. Cette eau liquide et ces éléments minéraux sont contenus dans le sol. Donc, c'est l'eau liquide et les éléments minéraux sont puisés par les racines dans le sol. Par contre, tous les végétaux n'ont pas les mêmes besoins. On a des végétaux qui sont très frugaux plutôt, c'est-à-dire qu'ils tolèrent des sols très pauvres, qu'ils se contentent de peu d'eau. Par contre, ces espèces, en général, ont des besoins importants en lumière. On a des espèces qui sont un peu moins exigeantes d'un point de vue lumière. Et on a ensuite des essences qui sont très bien adaptées au milieu, donc qui ont des besoins très stricts en certains éléments minéraux et en eau. Et elles supportent également l'ombre. Donc on a tout un tas de végétaux qui ont des besoins très différents. Donc, si j'ai été à peu près clair dans le début de mon exposé, on se rend compte que l'arbre a besoin du sol pour pouvoir vivre. Donc, je vais vous parler rapidement de ce que c'est qu'un sol et comment un sol se forme et fonctionne. Donc, un sol, ça se forme à partir d'éléments rocheux, des roches qui vont s'altérer, se désagréger pour donner des petites particules, des éléments nutritifs, qui vont être absorbés par l'arbre. Le sol capte également l'eau de pluie et ce sol va servir de réservoir pour stocker de l'eau et le fournir à l'arbre. Et on a également de la matière organique, donc les feuilles de l'arbre qui retombent au sol, qui vont être dégradées par toute la vie dans le sol. Je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure. Et cette dégradation de la matière organique redonne des éléments minéraux qui sont réabsorbés par les racines. Donc on a un cercle continu entre le vivant et le non-vivant au niveau, grâce au sol. Donc un sol, comme je viens de le dire, il est constitué d'éléments minéraux. Donc c'est des roches qui se désagrègent en libérant des éléments de taille très différente. Donc ça peut être de la taille du centimètre, du décimètre, ou du millimètre, voire du micromètre. On a des restes d'organismes morts qui donnent de la matière organique. Et ces éléments minéraux et cette matière organique vont s'assembler pour former ce qu'on appelle des agrégats, donc des agrégats de matière organique et d'éléments minéraux, qui vont permettre de retenir de l'eau, c'est ce que j'ai représenté en bleu là. Et entre ces différents agrégats, on a des vides qui vont permettre à l'eau de pluie de circuler rapidement. Une partie de l'eau de pluie rentre à l'intérieur des agrégats, l'autre partie de l'eau de pluie part dans le sous-sol. Et quand l'eau part dans le sous-sol, les vides qui étaient pleins d'eau se vident et deviennent pleins d'air. Cet air permet aux racines et à tous les organismes du sol de respirer. Donc, dans ce sol, on a de la matière minérale et puis on a également de la matière organique. Cette matière organique, elle va être transformée par tout un tas d'organismes, bactéries, champignons, insectes, qui transforment cette matière organique pour aboutir à des éléments minéraux, des éléments nutritifs qui vont pouvoir être absorbés par le végétal. Donc ça, c'est pour résumer un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc on a des roches qui s'altèrent, qui libère des particules minérales, de la matière organique qui se transforme, qui libère de l'humus. La matière organique et la matière minérale se rencontrent grâce à des mouvements d'eau. C'est ce qu'on appelle des phénomènes de migration. Et peu à peu, le sol va évoluer et se transformer. Cette transformation du sol, ça correspond à une diminution de la charge en éléments minéraux, puisque ces éléments minéraux se désagrègent peu à peu. Et ça correspond également à un approfondissement du sol. Plus un sol est profond, plus il va être capable de retenir notamment de l'eau. Donc là, je vous ai mis trois profils de sol différents. Entre le profil du haut et le profil du bas, on a une évolution. Et cette évolution peut correspondre à un temps qui représente plusieurs milliers d'années. Donc un sol qu'on détruit, c'est plusieurs milliers d'années d'évolution qui disparaît. En sachant que cette évolution, elle dépend de tout un tas de facteurs. Donc cette évolution, elle dépend de la nature des roches. Donc là, je vous ai mis la carte géologique d'une partie du parc des Cévennes, avec en rose, vert et bleu, qui correspondent à des granites, des schistes et des grès, des roches qu'on considère comme pauvres. C'est-à-dire que ces roches, elles fournissent très peu d'éléments minéraux. Donc ces roches vont générer des sols qui sont pauvres, donc avec une faible potentialité d'alimentation des arbres. Et puis on a en tout ce qui est jaune et orange, des roches qu'on appelle riches, parce qu'elles sont très riches en éléments minéraux, et qu'elles peuvent fournir de nombreux éléments minéraux qui permettent une bonne croissance des arbres. Ces éléments minéraux qui sont transformés par l'altération des roches, ils vont être transportés par l'eau. Donc le deuxième facteur qui intervient dans le fonctionnement d'un sol, ça va être le relief. On considère en général que les hauts versants sont des milieux qui s'appauvrissent, puisque l'eau ruisselle du haut vers le bas. Donc en ruisselant, l'eau entraîne avec elle des minéraux. Et donc tous les bas de versants s'enrichissent. Je pense quand vous promenez un peu en forêt, vous avez dû remarquer que tous les hauts versants, en général, les arbres sont beaucoup plus courts que dans les bas de versants où on a des sols beaucoup plus riches. Donc la position sur le versant joue un rôle important sur la richesse du sol et donc sur la croissance des végétaux. Dans un même ordre d'idées, les micro-reliefs ont également un rôle très important. Les creux s'enrichissent et les bosses s'appauvrissent, avec les mêmes répercussions sur la croissance des arbres. Et donc, on peut se rendre compte que au niveau d'un versant, il y a toute une succession de sols qui correspondent à des phénomènes de migration, grâce notamment à la circulation de l'eau. Ensuite, donc, on a vu que le sol avait un rôle important. Ensuite, le climat a également un rôle important sur la répartition de la végétation. Là, je vous ai mis une carte de France avec les grands domaines climatiques, qui sont enfin, les domaines classiques du climat qu'on connaît en France, avec domaine continental atlantique, domaine de haute montagne et climat méditerranéen. Si on superpose cette carte des domaines climatiques avec la carte de la végétation, on se rend compte que cette carte, elle se superpose, enfin ces deux cartes se superposent relativement bien. On a des végétations qui correspondent au domaine atlantique, des végétations qui correspondent au domaine montagnard, et des végétations, par exemple, qui correspondent bien au domaine méditerranéen. Et donc, voilà, ça c'est des illustrations. Ça c'est une forêt qui a été, enfin une photo de forêt qui a été prise dans le sud, dans le nord-ouest de la France, avec des grandes hêtraies de plaine. Une photo qui a été prise près de Briançon, donc une végétation de montagne avec des arbres qui sont très différents de la végétation de plaine. Et là, une photo qui a été prise pas loin d'ici, avec de la chênaie verte et de la chênaie pubescente, qui correspond à une végétation forestière du domaine méditerranéen. Donc, le climat général a une forte importance sur la répartition des végétaux. Et puis, on a également une grande importance du climat local. Donc, ce climat local, il dépend de l'altitude et de l'exposition. À basse altitude, vous n'aurez pas la même végétation qu'en altitude, donc dans le montagnard ou le subalpin. Et même chose, en exposition sud, vous n'aurez pas la même végétation qu'en exposition nord. Tout ça du fait de la chaleur induite par l'exposition. Alors donc, ça c'est encore une photo pour illustrer un peu ce que j'essaye de dire. On va s'occuper juste du versant, là, donc on remarque qu'il y a deux taches de couleurs très différentes. Une tache de couleur qui correspond à une forêt de feuillus avec quelques sapins, donc là c'est ce qu'on appelle de la hêtraie sapinière, donc c'est caractéristique de l'étage montagnard. Et au-dessus, une tache beaucoup plus sombre qui correspond à de l'épicéa. Cette tache d'épicéa, elle est due à une altitude plus importante qui ne permet plus le développement du hêtre et du sapin et qui ne permet que le développement de l'épicéa. Donc ces altitudes définissent des types de végétation qui se traduisent par des forêts différentes. Donc j'ai essayé de vous montrer qu'une forêt c'était des arbres, que ces arbres étaient nourris. Enfin, la répartition de ces arbres dépendait de la nature du sol et des conditions climatiques. Par contre, une forêt, ce n'est pas que des arbres. Quand on va en forêt, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'organismes qui vivent dans cette forêt. Ces différents organismes, ils vont avoir différents rôles. Ils vont jouer sur la croissance des arbres. C'est par exemple tous les champignons, notamment les mycorhizes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent aux arbres de mieux se nourrir. On a également des organismes qui permettent le renouvellement de la forêt. Ça va être tous les animaux qui permettent la dispersion des graines, comme par exemple les écureuils. Ça va être tous les animaux qui permettent la pollinisation des fleurs, donc la formation des graines et des fruits. Et puis, on a tout un tas d'organismes qui vont jouer un rôle de régulateur, c'est-à-dire qu'ils vont aller prélever certains organismes qui, s'ils étaient trop importants, deviendraient dangereux pour la forêt. Donc, on peut parler d'écosystème. Donc, la forêt est bien un écosystème. Donc, Ça, c'est une illustration de ce que j'essaye de dire avec la décomposition des litières forestières. Donc là, j'ai deux photos. Une photo prise de la surface d'un sol avec des feuilles à la surface et une deuxième photo avec des aiguilles. Ces deux photos, enfin, ces deux types de litières, elles abritent tout un tas d'organismes, donc des bactéries, des micro-arthropodes, des mollusques, des champignons, des vers de terre. Bref, il y a tout un cortège d'espèces qui vivent dans cette litière. Et ce cortège d'espèces va permettre à la litière d'évoluer. Donc ça, c'est la litière intacte. Et grâce à l'activité des différents organismes, cette litière va être peu à peu dégradée. Donc là, elle est micro-divisée. Donc ça, c'est plutôt le travail des insectes et arthropodes qui viennent manger ces feuilles, les micro-divisent. Et en micro-divisant ces feuilles, elles augmentent les surfaces de contact. Donc elles vont faciliter le travail des bactéries et des champignons. Une fois que les bactéries et les champignons ont travaillé, on a de la matière organique qui est beaucoup plus transformée, avec beaucoup de particules fines. Et donc, si on regarde ça sur une coupe de sol, on s'aperçoit, on a toute la transition, donc feuille intacte, feuille micro-divisée, feuille encore plus micro-divisée, et là, c'est la matière organique qui est très transformée par le travail des bactéries et des champignons. Ce travail des bactéries et des champignons va permettre de libérer des éléments minéraux qui vont servir d'éléments nutritifs pour les végétaux. Donc, si vous avez un sol qui est très actif, avec beaucoup d'organismes qui vivent à l'intérieur, la dégradation de la matière organique va être importante. Si vous avez une forte dégradation de la matière organique, vous allez libérer beaucoup d'éléments minéraux qui vont pouvoir servir d'aliments pour l'arbre, et l'arbre va pousser rapidement. Si au contraire, cette matière organique se dégrade peu, elle va s'accumuler à la surface du sol, on a peu d'éléments minéraux qui sont libérés par l'activité des bactéries et des champignons, l'arbre a peu de choses à manger et il pousse peu. Donc, rien qu'en étudiant les humus d'un sol, on peut en déduire le niveau de fertilité d'un site. Donc, j'attaque ma troisième partie. Je vais essayer de vous montrer que la forêt évolue. Alors, comment ça marche ? Ouais. Donc, déjà, la forêt, elle s'est pas installée comme ça. Pour que la forêt arrive, il y a toute une succession d'espèces qui préparent l'arrivée de la forêt. Donc en général, on parle d'un stade pionnier, où des petites herbes colonisent un sol nu. Je pense que vous avez tous observé ça. Ces petites herbes qui colonisent un sol nu, au bout d'un certain temps, vont être remplacées par une pelouse dense. Cette pelouse dense, elle évolue, elle va être colonisée par des petits arbustes. Et ces petits arbustes, au bout d'un certain temps, vont être remplacés par des arbres et on va aboutir à une forêt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des successions végétales et cette succession se fait en général quelques centaines d'années. C'est relativement rapide. Parallèlement, on a le sol. Tout à l'heure, je vous ai dit que le sol évoluait sur quelques milliers d'années et donc vous avez un sol qui évolue et parallèlement à l'évolution de ce sol, vous avez la végétation qui évolue en même temps. Et donc on parle de climax, c'est-à-dire qu'on a toujours un équilibre entre le climat, la végétation et le sol en place. Une fois qu'on a atteint le couvert forestier, donc on a la pelouse qui évolue en lande, la lande évolue en forêt. La forêt, elle n'est pas stable, elle évolue également. Donc, c'est ce qu'on appelle ça une maturation de la végétation forestière. Donc, j'ai essayé d'illustrer ça avec des photos. Donc, premier stade de la forêt, c'est ce qu'on appelle le stade pionnier. Donc, des petits arbustes qui ont colonisé la lande et qui préparent l'arrivée d'autres essences. Donc au bout d'un certain temps, alors quand je parle d'un certain temps, c'est plusieurs dizaines d'années, ces petits arbustes sont remplacés par des espèces dites pionnières, c'est-à-dire vous avez du bouleau, du pin qui colonisent, qui apportent un peu d'ombre et qui préparent l'arrivée d'autres espèces. Ensuite, on a des espèces post-pionnières, comme par exemple l'érable ou le frêne, qui remplacent les espèces pionnières. Et au bout d'un certain temps, on a des espèces qui sont très bien adaptées au milieu et qui supportent l'ombre. C'est-à-dire que les petites plantes qui sont générées poussent sous les espèces post-pionnières. Elles supportent l'ombre et elles vont pouvoir se développer à l'ombre des autres. Cette végétation évolue encore. Donc cette végétation, elle vieillit. Par contre, elle n'évolue plus. Les espèces restent les mêmes. Et en vieillissant, arrive ce qui doit arriver, c'est que certains vieux arbres vont mourir. En mourant, ces arbres vont tomber. En tombant, ils laissent un peu de lumière, et cette lumière permet à des graines qui étaient dans le sol ou à côté de germer pour redonner d'autres espèces. Donc c'est un moyen de régénération de la forêt, c'est-à-dire qu'un arbre meurt et est remplacé par des jeunes arbres. Donc ça, c'est un phénomène de régénération grâce à des trouées. Cette régénération, elle peut également se faire par des tâches beaucoup plus importantes, notamment des incendies, des coups de chablis, donc des coups de vent, qui couchent de grandes surfaces d'arbres. Ça amène de la lumière au sol et ça permet le développement d'autres espèces et le cycle continue. Donc, en fait, voilà toute la succession, avec une phase de régénération, une phase de déclin, et après la phase de déclin, revient la phase de génération, et ainsi de suite. Étant donné que ces phases, elles apparaissent à différents endroits de la forêt, on a une forêt qui est une mosaïque de milieux. Donc, une forêt naturelle, où l'homme n'intervient pas, c'est une mosaïque de milieux où on a plein de phases différentes d'évolution de la forêt. Par contre, l'homme intervient dans ce cycle et il va notamment intervenir au niveau de la phase de sénescence. Des arbres tout vieux, ça n'a aucune valeur économique, donc on préfère les couper avant. Donc l'homme va squeezer une partie de ce cycle et éventuellement, l'homme peut également squeezer la partie de régénération en plantant lui-même des essences qu'il choisit pour produire des bois dont il a besoin. Alors, donc, l'impact de l'homme, c'est la sylviculture. Donc, cet homme, il va intervenir sur la forêt en introduisant des espèces dites allochtones, c'est-à-dire des espèces exotiques. Ça peut être du Douglas, du pin maritime, du chêne rouge d'Amérique. L'homme, il peut intervenir sur la richesse en espèces. On peut avoir des forêts monospécifiques avec une seule espèce. Et puis, on peut avoir des forêts très riches en espèces, ce qu'on appelle des forêts mélangées, donc avec une grande diversité spécifique. Et puis, on peut avoir des diversités de structures, avec de la forêt irrégulière, ou futée irrégulière, où on a des petits arbres qui côtoient des grands arbres, par exemple. Et puis, on a de la forêt régulière, où tous les arbres ont plus ou moins la même taille, le même âge. Tout ça, c'est l'homme qui le décide. Voilà. Donc, je vous ai montré qu'une forêt, c'était un écosystème constitué d'arbres, que cette forêt, elle évoluait dans le temps. Et on va voir maintenant l'impact du climat sur l'évolution de la végétation forestière. Alors, je vous ai mis une courbe, alors ça devient un peu moins sympathique. C'est une courbe qui représente l'évolution des températures depuis la dernière glaciation. Donc à la fin de la dernière glaciation, on avait des températures qui étaient d'environ moins 4 degrés par rapport aux moyennes actuelles. On voit que tout au long des 12 000 ans qui nous séparent de la dernière glaciation, on a eu des fluctuations des températures moyennes. Ces fluctuations, elles sont très basses, enfin très, très minimes, c'est à peine 1 degré. Et malgré ces fluctuations de quelques dixièmes, enfin quelques degrés, on a eu des changements de végétation. Alors, comment on peut étudier la végétation au fil du temps? Ça, c'est un petit aparté. On étudie cette végétation grâce aux pollens qui sont contenus, notamment dans les tourbières. Donc, ces pollens, on peut identifier les différentes espèces. En fonction des profondeurs, on connaît à peu près l'âge de ces pollens. Et grâce à ces profils de pollen, on peut recréer la végétation passée. Donc, ces profils de pollen, on peut les compléter par des études de charbon de bois. Même chose, on peut identifier les différentes espèces grâce au charbon de bois et on peut recréer l'histoire de la végétation. Donc, je passe là-dessus, ce n'est pas très intéressant. Et là, par contre, je vais vous parler. Donc, ça, c'est une étude que j'avais réalisée pour le parc des Monts d'Ardèche. Donc, c'est une étude bibliographique, c'est-à-dire j'ai collecté tout un tas de données bibliographiques, d'articles scientifiques, pour recréer l'évolution de la végétation au niveau des Monts d'Ardèche, en sachant que cette évolution de la végétation dans les Monts d'Ardèche, elle est pratiquement similaire à celle qu'on trouve dans les Cévennes. Donc, à la fin de la dernière glaciation, on avait le bas Vivarais, donc la basse Ardèche, qui était constituée de quelques pins sylvestres, ou quelques pins accrochés, on a du mal à savoir lesquels étaient, quelques bouleaux, et tout le talus cévenol et le plateau ardéchois étaient, c'était de la steppe, donc une espèce de prairie, avec des glaciers locaux sur les sommets, notamment au Mézin. Toutes les espèces, enfin certaines espèces d'arbres, notamment le chêne, s'étaient réfugiées dans le sud. Donc là, en rouge, vous avez les refuges du chêne. Donc le chêne, il s'était réfugié en Italie, dans le sud de l'Espagne. Et peu à peu, ce chêne, grâce au déplacement l'arbre qui se replante grâce à ses glands, s'est déplacé peu à peu. Et en quelques milliers d'années, il est venu recoloniser la France, puisque on s'intéresse ici à la France. Et donc, il y a environ donc la période atlantique, entre moins 8000 et moins 5000 ans, on avait un réchauffement climatique, donc une température moyenne qui était de 1 degré supérieur aux températures actuelles, avec une chaînée qui était présente même sur les hauts sommets. Le mont Lozère, le Mézin, l'Aigoual, c'était du chêne. Toute la partie basse, c'était des chênes, mais plutôt des chênes chêne vert, chêne pubescent, alors qu'au-dessus, c'était du chêne Cécile. Avec les petites fumées là, que j'ai représentées ici, ça correspond au début d'un pacte de l'homme. C'est-à-dire que l'homme préhistorique faisait du brûlis, et il a commencé à intervenir sur la végétation forestière. Entre moins 4000 ou moins 5000 et moins 3000, on a une détérioration du climat, c'est-à-dire qu'on a un refroidissement. La chaînée a disparu sur les hauts sommets et a été remplacée par le hêtre, notamment, avec l'apparition de quelques sapins. Dans le bas Vivarais, l'homme avait déjà bien travaillé et éliminé une bonne partie de la végétation forestière. Alors, même chose, pourquoi le hêtre et le sapin apparaissent? Parce que le climat devient plus froid et que le hêtre et le sapin ont eu besoin d'un certain temps pour remonter du sud, de leur refuge, vers la France. Et donc, depuis l'époque historique, on a des impacts anthropiques qui se sont accentués, avec notamment depuis le Moyen-Âge. Donc, à partir du Moyen-Âge, de forts impacts de l'homme, avec l'introduction ou le développement d'espèces, notamment dans les Cévennes, ça va être le développement de la châtaigneraie, et l'introduction d'espèces exotiques à partir du 19e siècle, notamment avec tous les boisements RTM. Et donc, j'ai bientôt fini. Donc, maintenant, je vais essayer de vous parler l'impact du changement climatique. Donc là, c'est un graphique que vous connaissez tous, je pense. C'est les prévisions du GIEC par rapport aux différents scénarios, avec le scénario le plus optimiste et le scénario le moins optimiste. Donc, en fonction de ces scénarios, alors ces scénarios, on peut essayer de modéliser leurs effets et voir l'impact de ces effets sur la végétation. Donc, ces scénarios, ils montrent qu'on va avoir une augmentation des températures moyennes annuelles, c'est-à-dire qu'il va faire plus chaud. Ces scénarios montrent également que, enfin, les modèles issus de ces scénarios montrent qu'on va avoir des étés plus longs, plus chauds et plus secs. On risque d'avoir une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des événements extrêmes, notamment tout ce qui est canicule, épisode Cévenol. Et on va avoir des hivers peut-être moins froids et moins enneigés. Et donc, à l'échelle de la France, on s'attend par exemple à une remontée de la végétation méditerranéenne vers le nord, avec une aggravation des incendies de forêt, puisque ça va être plus sec. Alors, quels peuvent être les impacts de ce changement climatique sur l'arbre ? En ayant des périodes plus sèches, on diminue les pluies. Si vous avez moins de pluie, vous avez moins d'eau dans les sols. Si vous avez moins d'eau dans les sols, l'arbre a moins d'eau pour se nourrir. Mais on a vu qu'on a des étés plus secs et également des étés plus chauds. Si vous augmentez la température de l'air, votre arbre, il a tendance à transpirer de façon plus importante. Donc on va avoir des pertes d'eau plus importantes qui ne pourront pas être compensées par l'eau puisée par les racines. Donc les arbres les plus adaptés vont avoir une croissance plus faible puisqu'ils vont fonctionner moins bien. Les arbres les moins bien adaptés, eux, ils vont carrément disparaître. Et les arbres les plus faibles, étant donné qu'ils sont plus faibles, ils auront une moindre résistance aux parasites, aux maladies, donc à des risques de dépérissement plus importants et des risques d'incendie également plus importants. Au niveau de la forêt, d'une façon plus générale, donc on risque d'avoir des gels tardifs qui vont perturber la floraison, donc la reproduction des arbres. On va avoir des neiges lourdes avec des impacts sur la qualité des bois. On peut avoir des risques accrus d'incendie, des conséquences possibles sur la biodiversité forestière, notamment tout ce qui est insectes et faune forestière, et des conséquences possibles sur la qualité des sols, notamment au niveau du fonctionnement des humus. Donc on a vu que les humus y fonctionnaient grâce à tout un tas d'organismes. Si ces organismes disparaissent ou changent, la transformation de la matière organique se fera moins bien et donc le retour d'éléments minéraux pour les arbres se fera également moins bien. Même chose au niveau des sols, avec des pluies importantes, des sols plus secs, on risque d'avoir des risques d'érosion plus importants, notamment au niveau des pentes. Alors, que peuvent faire les forestiers ? Donc, les forestiers, ils doivent essayer de s'adapter. Pour essayer de s'adapter, il existe des outils qui ont été mis en place. Donc, je vous ai parlé, enfin, j'ai mis quelques exemples d'outils, donc BioClimSol, ClimEssence, Biljou. Donc, ce sont des outils qui sont basés sur des modèles numériques qui prennent en compte les différents scénarios de changement climatique, qui prennent en compte les exigences et la tolérance des essences forestières à certaines perturbations. Elles prennent en compte certaines caractéristiques du milieu, le sol, l'altitude. Par contre, il y a tout un tas de données ou de connaissances qui ne sont pas prises en compte, car c'est impossible de tout prendre en compte. Tout ce qui est biodiversité, mélange d'essences, interaction entre individus, espèces, tout ça, c'est laissé de côté parce que c'est impossible de prendre tout ça en compte à notre niveau. Donc il y a tout un tas d'inconnus, ce qui fait que ces outils sont relativement imprécis. Alors là, voilà, ça c'est quelques résultats d'outils qui peuvent être utilisés. Donc là, c'est une illustration avec l'outil ClimEssence qui prédit les caractéristiques climatiques au niveau de Florac. Donc ça, ce sont les précipitations, enfin les données climatiques actuelles, avec des étés relativement secs, un déficit en eau qui est représenté par les bandes rouges, les prédictions de climescence pour 2070. On avait 2 mois avec des déficits hydriques. En 2070, on aurait 4 mois de déficit hydrique avec des précipitations qui sont à peine plus faibles, par contre des températures qui sont plus hautes. En sachant que ça, tout ça, ce sont des prévisions basées sur des modèles numériques et qui ne sont pas toujours très fiables. Même chose. Voilà, ça c'est les cartes de répartition du hêtre dans les Cévennes. Donc, répartition actuelle du hêtre, toujours sur la base de ces modèles climatiques. On se rend compte déjà que cette carte, pour la répartition actuelle, elle n'est pas fiable, elle est fausse. Hein. Autour d'Alès, du hêtre, moi j'en connais pas. Hein. Par contre, il y a tout le Mont Lozère où il n'y a pas de hêtre, parce qu'il fait trop froid. Et le scénario pessimiste à l'échelle 2070, d'après ces scénarios de prédictifs, on se rend compte par contre que les seuls endroits où on trouverait du hêtre, ce serait le Mont Lozère, ça doit être le sommet du Bougès, et ça doit être les Goualles. Alors, autre illustration, c'est le châtaignier. Donc, le châtaignier, il est absent, enfin, il est. Même chose, vous vous rendez compte que ces cartes, c'est un peu aberrant. Hein. Le châtaignier, il est bien présent, d'après les modèles climatiques, sur toutes les basses Cévennes, alors que si vous vous baladez en ce moment dans les basses Cévennes, vous vous rendez compte que le châtaignier, il commence à avoir de sérieux dégâts, enfin, il commence à avoir du dépérissement. Et en 2070, le châtaignier, suivant ces modèles, serait à l'aise partout. Donc, des outils qui sont disponibles, par contre, des outils dont les résultats sont assez critiquables, à mon avis. Et donc, pour conclure, donc, les forêts, elles vont être impactées par une hausse des températures et par des sécheresses estivales importantes. Donc, ces températures importantes et ces sécheresses vont avoir des conséquences sur les arbres, sur la survie des espèces, sur la productivité, sur les risques d'incendie, les maladies, la biodiversité forestière. Bon, donc, des impacts importants sur tous les milieux forestiers. Donc, le forestier, lui, il doit essayer de tenir compte de ces risques et essayer de s'adapter. Donc il y a plein de possibilités, j'ai aucune réponse, moi je pose que des questions. Donc est-ce qu'il faut essayer de favoriser la résilience des forêts? Donc favoriser la résilience des forêts, c'est permettre que ces forêts réagissent elles-mêmes à ces changements climatiques et puissent s'adapter à ces changements. Donc ça passerait par une diversification des essences, des structures, passer plutôt en forêt irrégulière plutôt qu'en forêt régulière, mettre de nombreuses essences différenciées pour permettre de réagir plus facilement à des changements, préserver la biodiversité pour toujours lutter contre des risques de maladies, par exemple. Ou alors, une autre possibilité, c'est modifier les essences actuelles en introduisant de nouvelles essences adaptées aux futures conditions climatiques. Alors, soit on plante des nouvelles essences qui viennent de pays ou de secteurs où actuellement il fait plus chaud et plus sec, soit on tient compte de certaines essences locales qui sont adaptées à des conditions plus drastiques. Je pense par exemple aux hêtres. Certains hêtres sont capables de pousser dans des milieux secs. Ces hêtres, s'ils poussent dans des milieux secs, alors que normalement ils poussent dans des milieux plus... Le hêtre en général pousse dans des milieux bien arrosés. Si certains hêtres sont capables de pousser dans des milieux plus secs, c'est peut-être que d'un point de vue génétique, ils ont commencé à s'adapter depuis un certain temps. Donc peut-être tenir compte de ces races locales, qu'on appelle des écotypes, pour coloniser et favoriser ces essences locales pour qu'elles remplacent les essences moins adaptées. Je ne suis pas sûr d'être très clair, mais... Et je crois que j'ai fini. Voilà.
Jean-Michel Boissier, merci beaucoup. Je vous invite à prendre le micro qui est là sur la chaise. Prenez ce micro là, allez-y, et donnez-moi le HF. Mesdames et messieurs, si vous le voulez, vous pouvez vraiment réagir maintenant. Et si vous avez des questions, c'est parti, on y va.
Cette chose. Bonjour, je suis Hervé Le Boulaire, mon nom me dit probablement rien, Climessence c'est moi. D'abord je dois te féliciter parce que je fête aussi mes 50 ans de carrière, c'est le plus beau cours de synthèse sur ce qu'est un arbre, une forêt, etc. Et je vous invite vivement à le mettre en ligne, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui en rabattrait beaucoup dans les grandes écoles célèbres du nord de la France. Ensuite, je vais pas être très long, on a toute la journée demain pour en parler à Bar des Cévennes. Je suis là complètement par hasard, puisque je faisais étape en rentrant d'Italie pour rentrer chez moi au Pays Basque, chez Janine Bourelli, qui est toujours une excellente maison très connue dans la région. Je pensais jamais voir ce qu'était le scénario à plus 4. Je me disais, prends pas grand risque en faisant ces modèles, puisque la modélisation est un art très difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. On le connaît aussi en politique, monsieur le sous-préfet, les prédictions de croissance sont jamais celles qu'on a prévues. Et j'avais énormément de doutes sur le modèle, et malgré tout, ces modèles ont été publiés, parce qu'il a été dit, vaut mieux avoir quelque chose d'imparfait que rien. Mais maintenant, on a énormément de surprises, en particulier, on ne prend pas en compte les interactions. Dans le modèle climessence, il n'y a pas l'arrivée des maladies et les choses se passent globalement comme prévu, c'est-à-dire que quand ça dépérit, selon le modèle, ça dépérit bien, mais il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Je gère la forêt de Chantilly, c'est une forêt de 1000 ans où le pédonculé et le sessile sont en train de dépérir alors que le modèle disait qu'ils ne dépérissaient pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, hein, c'est que... Alors si, ce qu'il faudrait dire aussi, ce que tu aurais peut-être pu dire, on a gagné 2,2 degrés depuis 30 ans, on prend 0,5 degré par décennie depuis 30 ans, 3 décennies qui viennent, ça fait 1,5 degré, 2,2 plus 1,5 degré, ça fait 3,7 degrés, c'est quelque chose qui s'est jamais produit dans l'histoire de la vie sur Terre, et c'est pas la végétation méditerranéenne qui monte, c'est le climat méditerranéen. On est déjà dans le méditerranéen, dans le bassin parisien, sauf que les premières espèces méditerranéennes sont à 500 km et elles viennent et elles avancent de 100 mètres par an.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez une réponse peut-être ou une autre remarque. Merci beaucoup, monsieur. Une autre question, une autre remarque. Allez-y, avec plaisir. Non ?
Merci beaucoup. Vous parliez au début de votre présentation de l'importance du sol et aussi combien c'était important parce que ça représentait des milliers d'années en fait. Et je me posais la question par rapport à la conclusion de votre présentation, comment protéger aussi les forêts dans leur évolution via le sol, est-ce que c'est possible? Et comment nous en tant que citoyens on peut aider à la protection de ces sols? Je ne sais pas si c'est possible.
À mon avis, la seule protection du sol que l'on peut faire, c'est de laisser le sol tranquille. Il n'a pas aller le perturber. Enfin,
c'est ça. Basique, mais... Donc c'est aussi à l'échelle plus de la société, moins construire, moins.
Oui. Enfin, ça commence à devenir à la mode. Enfin, pas à la mode, mais ça devient. On commence à prendre conscience de l'importance des sols. Maintenant, il commence à y avoir des décisions qui limitent l'artificialisation des sols. Mais c'est... Enfin, disons, pour moi... Enfin, après, moi, je suis pédologue. Hein, les sols, c'est ma petite... oui, pardon. pour moi, les sols, c'est la base de tout. Sans sol, il n'y a pas de végétation. Sans végétation, il n'y a pas de faune. Et sans faune, nous faisons partie de la faune.
Et est-ce qu'on peut ramener des espèces d'insectes, de vers de terre et autres dans les sols pour les aider à se nourrir, ou c'est pas une bonne idée?
Non, après je suis pas un spécialiste de ça se fait dans de la réhabilitation de certains sols urbains par exemple, mais faut le laisser tranquille. Enfin, tout fonctionne. Enfin, quand ça fonctionne, ça fonctionne.
D'accord, merci.